je rejoignis les enfants effarés par cette révélation. Non, je n'avais pas vu que Donat était anormal. Ici, tout le monde me paraissait anormal. Comme nous semions la zizanie dans la forêt, j'observais Donat. Elle pouvait avoir 8 ans et elle suivait le mouvement, riant sans cesse. Il me fallut longtemps pour déceler qu'elle ne fermait jamais la bouche et que son lexique se résumait à « oui, oui, oui ». Au fond, son handicap relevait d'une excellente adaptation au mode de vie des enfants de Pontdois. Elle était toujours contente et ne parlait que pour accepter. Les autres membres de la troupe ne lui accordaient aucun traitement de faveur. Ils semblaient avoir oublié que la petite sœur avait un problème. Souvent, elle poussait des exclamations de joie. Cet enthousiasme exagéré me toucha. J'appris à calquer mon attitude sur celle de Donat. Au lieu d'avoir continuellement peur, comme le premier jour, je décidai de me réjouir constamment, à l'exemple de la petite anormale. Les autres n'y virent que du feu. Ne jamais se plaindre, être toujours disposé à partir en forêt pour grimper aux arbres ou sauter dans le lac, jouer le gardien de but d'une partie de football sauvage, se battre à table pour un crouton de pain, c'était le quotidien, l'ordinaire de la bande. Nous menions une existence parallèle à celle des adultes. À part grand-mère, aucun d'entre eux ne se souciait de nous. Un soir, Donat ne se présenta pas au dîner. Il n'eut que moi pour m'en apercevoir. Comme je l'aimais beaucoup, j'enfonçai un morceau de pain dans ma poche pour elle. Suprême preuve d'amour de la part d'un être aussi affamé que moi. Plus tard, je la retrouvai. Elle était couchée sur son lit et chantait la Brabançonne dont elle avait remplacé les paroles par « oui, oui, oui ». Jamais je n'ai entendu de version plus positive de l'hymne national belge. Enivrée par son propre chant, Donat n'avait pas prêté attention à la cloche annonçant le repas. Je lui tendis le crouton de pain, elle se jeta dessus et le dévora. Ensuite, elle m'étreignit et me couvrit de salive pour manifester sa gratitude. Dire que cette fillette était ma tante. Chaque soir, après un dîner plus que maigre, nous recevions tous une portion de compote de rhubarbe grâce aux efforts de grand-mère. Certains jours où le pain manquait, la rhubarbe allait jusqu'à constituer mon unique nourriture. Il n'existe pas, je crois, d'exemple historique de groupement humain dont la rhubarbe fut la seule alimentation en dehors des enfants du Pontdois, les étés de guerre. Depuis cette époque, je conserve une ferveur particulière pour ce végétal fibreux et sympathique. La fin des vacances approchait. J'étais fière d'avoir survécu. Charles dut s'en apercevoir qui me dit « Tu n'as passé qu'un été au Pontdois. Tu n'as encore rien vu. Pourquoi ? Ce qui est difficile ici, c'est l'hiver. Et il dure longtemps. » Piquée par la curiosité, je répondis « Je viendrai pour les vacances de Noël. » Ah, tu es bête! Reste au chaud dans ton appartement de Bruxelles! J'adore le Pontdois. Je veux le voir sous la neige. J'étais sincère. Au-delà de ses habitants, j'avais conçu un amour véritable pour ce château et cette forêt. Par ailleurs, j'adorais appartenir à cette bande d'enfants sauvages. Grand-père m'apostropha lors de l'ultime dîner.
Mon Patrick, il paraît que tu nous quittes.
Oui, bon papa vient me chercher demain.
Je t'ai observé. Tu es un esprit distingué. Tu es très apprécié ici.
Nous espérons ton retour. Les moqueries des enfants eurent beau fuser, je rougis de fierté. Pierre Noton avait le talent du contact singulier avec les gens. Il s'adressait à chacun comme s'il était la personne la plus importante de sa vie, d'où la vénération qu'il suscitait. Bon papa fut ponctuel. Il n'émit aucun commentaire sur mon costume marin sale et troué, ni sur mon aspect misérable. Oursmar nous conduisit à la gare. Dans le train pour Bruxelles, j'essayais d'expliquer à bon papa pourquoi j'avais tant aimé mes vacances. Le général m'écoutait à peine. Il semblait satisfait et accueillait mon babil avec l'indifférence du gradé. À l'appartement m'attendait bonne maman qui poussa un cri de terreur à ma vue.
« Mon chéri, que t'ont-ils fait ?»
Elle s'approcha et m'étreignit.
« Tu es maigre comme un clou et vêtu comme un mendiant. »
J'avoue que j'étais enchantée par cette réaction que j'encourageais.
« Nous ne recevions pas beaucoup à manger, » dis-je, d'un air héroïque.
« C'est affreux! Tu dois être mort de faim !»«
Ma foi,
le dîner sera servi dans une heure. D'abord, je vais te récurer. »
Elle me déshabilla et découvrit mon corps squelettique. Elle en pleura.
« On n'a pas le droit de laisser un enfant sans nourriture. »
J'entrai dans la baignoire remplie à ras-bord, dont l'eau devint aussitôt brunâtre.
« T'es-tu lavé là-bas ?»«
Parfois. »
En vérité, il m'était arrivé de nager dans le lac, point final.
« Ouais, maman, elle dînera avec nous ce soir, pauvre Claude, quand elle te verra dans cet état. »
Bonne maman me savonna d'importance, me frictionna et m'habilla de frais.
« Qu'ont-ils fait à tes vêtements, ces sauvages ?»
demanda-t-elle.
« C'est en grimpant aux arbres, » inventai-je pour innocenter le clan.
Contrairement au pronostic de sa mère, maman ne manifesta pas de désapprobation en me retrouvant.
« Tu as vu comme il est maigre ?»
dit bonne maman.
« C'est bien. Tu ressembles enfin à ton père. »
J'avais si faim que j'étais incapable de regarder autre chose que les plats. Bonne maman me servit une assiette monumentale sur laquelle je me jetai.
« Voyons, Paddy, et tes manières ?»
intervint maman.
« Nous n'enverrons plus cet enfant chez ces barbares !»
dit bonne maman.
« Je veux retourner au pont d'Oie. J'ai adoré mes vacances. »
« Et s'il lui plaît d'être battu ?»
dit bonne maman.
« Tu y retourneras !» dit bon papa.
À l'évidence, le général approuvait les mauvais traitements que j'avais subis chez les Notons.
« Le voici enfin aguerri pour la rentrée des classes » pensait-il.
Il n'avait pas tort. Le jour de la rentrée à l'école primaire, je fus l'un des rares à ne pas crever de peur. Il s'avéra que nous étions 5 garçons pour 15 filles. Celles-ci ne représentaient guère de danger. Il suffisait de les complimenter sur leurs cheveux et l'affaire était dans le sac. Avec les garçons, je jouais les durs, regardant la ligne d'horizon, bouche close. N'étais-je pas le fils d'un militaire explosé et le petit-fils d'un général ?
J'ai la tuberculose, me dit Jacques. Sans doute pour se rendre intéressant.
« Je connais 3 personnes qui en sont mortes, »
répondis-je, consolateur.
« Tu m'aideras à faire mes devoirs ?»
Comme je savais lire et écrire depuis longtemps, je devins le soutien scolaire de mes camarades. Dans la cour de récréation, je préférais rester seule à réceptionner un ballon imaginaire en me jetant par terre. Interrogée sur ce comportement, je répondis que je voulais intégrer l'équipe de football comme gardien de but. On me dit que le football ne concernait que les élèves de plus de 10 ans. Je soupirais d'ennui à l'idée d'attendre si longtemps. Je pris l'habitude de passer les pauses avec Jacques. Il m'invita chez lui après l'école. Sa mère me parlait comme un intellectuel parce que j'étais le premier de la classe. Elle estima que les progrès scolaires de son fils étaient mon œuvre et m'offrit du chocolat. La nuit, je rejoignais mon lit tiède et confortable. Je repensais à ma paillasse du dortoir de Pont-d'Oie avec nostalgie. Comme c'était bien de dormir avec la bande et d'écouter la chouette. Sur le portrait en face de moi, maman me regardait avec une douceur que je ne lui avais jamais vue. « Aimes-tu le Pont-d'Oie, maman ? » interrogeai-je. « C'est le lieu où j'ai connu mes plus grands bonheurs, » répondit-elle. « Moi aussi. » Elle sourit. Ce ne devait pas être des bonheurs comparables. Ne veux-tu pas y retourner ?
Pour rien au monde, j'en aurais le cœur brisé,